Seconde partie de ce temps de création radiophonique. À l'œil nu, un océan à entendre. Une série en 6 épisodes de Claire Rixet. Aujourd'hui, épisodes 1 et 2, les deux premières étapes de ce parcours en 6 destinations. L'observatoire de la rade d'amour et le port du pavé.
N'hésitez pas à chausser vos écouteurs ou votre casque audio pour une meilleure qualité d'écoute. À l'œil nu, un océan à entendre. Une série sonore en 6 étapes littorales. Par Claire Veissé. Première étape, la rade d'amour en pointe d'Arcé. Juin 2024. Je note dans mon carnet. Difficile de comprendre la géographie des lieux sans avoir une carte sous les yeux.
On pourrait dire donc déjà le trait de côte, le littoral.
Je note.
L'estran.
Terre et eau entremêlées.
Les anses, les baies.
L'eau est dans les terres.
Les embouchures.
La terre parmi la mer.
On dit souvent qu'il n'y a pas de différence entre un estuaire et une embouchure. Moi, je pense qu'il y en a une.
Marine Le Breton, artiste cartographe, m'aide à trouver les mots.
Et d'autres mots plus généraux, ben, un pic, un cap, un isthme. L'isthme, la notion d'isthme, elle est géniale. La presqu'île. Ici, il y a un mot qu'il n'y a nulle part ailleurs, c'est le pertuis. On a le pertuis breton, le pertuis d'Antioche, le pertuis de Montluçon. Je pense qu'il y a d'autres lieux en France qui pourraient avoir la nomination de pertuis, or ils ne l'ont pas.
Hop. Mars 2025.
Donc voilà, la partie un peu privative, réservée à la biodiversité de la pointe d'Arcé.
Rendez-vous avec Régis Gallet de l'Office français de la biodiversité.
Dans le milieu du chemin, il y a Chevry.
Nous regarde. Secteur fermé au public de la pointe d'Arcé.
Bah, il se demande ce qu'on fait là, il n'a pas l'habitude. On est sur une pointe sableuse qui est quasiment contemporain de notre époque. Et elle va grandir chaque année, depuis plus de 200 ans, de entre 20 et 50 mètres de long. Si bien que quand vous la regardez vue du ciel, en gros, la pointe d'Arcé, c'est une succession de dunes. Et donc, du coup, en quelques mètres, vous passez d'un milieu à l'autre. Et ça, c'est tout l'intérêt de ce site, hein. On a une telle diversité d'habitats successifs qu'à chaque fois, eh ben, on a un cortège d'espèces différentes. C'est un territoire qui est en partie protégé depuis les années 60, qui est fermé au public depuis les années 70. Il y a un niveau de tranquillité de la faune sauvage qui est relativement intéressant. On va y retrouver un certain nombre d'espèces qu'on aura du mal à retrouver ailleurs sur le territoire. Elles sont sensibles au dérangement, quoi, et donc on ne les retrouve pas ailleurs. Donc là, on va arriver sur la côte sableuse de la pointe d'Arcé. Donc en face, on va arriver sur une grande plage, donc une plage quasiment de 8 km. Et puis en face, on a donc les fameux bouchots de la Faute-sur-Mer. Et juste à l'horizon, on voit l'île de Ré. Au bout à gauche, il y a le pont de La Rochelle et le port de La Rochelle tout au bout. Et là, on a l'architecte des dunes, Loya. C'est vraiment la plante pionnière qui va permettre de capter du sable et de faire d'engraisser la dune, comme on dit. Et donc qui contribue très largement à la protection du littoral. Là, on a une trace d'un micro-mammifère qui a traversé. Là. Ça peut être un petit campagnol ou un bulot. espèce de petite, des petites mains à cinq doigts qui, et avec une pelote à l'arrière, et qui sont bah, très rapprochées à 4-5 cm les unes des autres et qui traversent devant nous dans la dune. Hop. Et ça c'est du lièvre variable, avec les pattes avant qui sont derrière et les pattes arrière qui sont devant. Un escargot qui a fait une traînée qui s'est enfouie peut-être. Quand vous faites des balades dans la dune, c'est vraiment un petit livre de ce qui s'est passé dans la nuit.
Je note dans mon carnet. Labo scientifique Pélagis, chercheur qui observe et veille sur la mégafaune du monde entier.
Attachés ?
Ouais.
Oui.
C'est vérifié. 4.
0902, 1, 0902, 1, 0902
près.
On est prêt.
C'est parti.
0902,
les conditions, je les veux bien.
Alors, R1. 2, 1, c'est quand t'as des petites cellules.
Ouais, peut-être plus de 1, petit 2, mais...
Ok.
Ok, la houle, il n'y en a pas trop.
Non.
0, turbidité, peut-être 1
quand même. Peut-être 2, ouais.
Les scientifiques regardent la mer vue du ciel et notent chaque être observé.
Et là, on a un soleil d'hiver encore assez bas, tu vois.
Et là, l'eau, elle paraît hyper claire.
Leur langage est codé.
Hop, à droite, 2 sulbasses adultes posés. 1 sulbasse adulte en vol, sous l'avion, il y en a 2.
Sulbasse, foot bassant.
Hop, à droite, 4 alcuries posées.
Alcurie, pingouin ou guillemot.
Hop, à droite, 1 alcurie posée. Hop, à droite, il y avait 2 alcuries posées. Hop, à gauche, 8 larmines en vol.
Larmine, mouette, pygmée.
Lui, on va tourner juste au nuage, en fait.
Ouais, à peu près.
Ah, waouh. 12 del-del, dont 3 jeunes.
Del-del, dauphin commun.
Vu sous l'eau à 75 et ils allaient vers le 80. Hop, à gauche, une jelly.
Jelly, méduse.
Hop, à droite, un fofo.
Fofo, marsouin
en
commun.
Le 71, vu sous l'eau en swimming vers le...
Swimming, 130. En nage normal.
Hop, à gauche. C'est quoi ça?
Ça nage, ça vole.
Hop, à gauche. Waouh, un énorme thon. C'est un thon, mais énorme. Plus gros qu'un dauphin.
Ah ouais?
Oui.
Vache.
Un gros gros thon rouge, quoi. Un molle-molle, angle 70.
Voilà. On en a un.
Que... Molle-molle, poisson-lune.
Ah, là, vous allez voir pas mal d'oiseaux. Hein.
Ouais. Oh là là.
Je suis pas sûr.
Ouais, il y a plein de pierres au-dessus de l'eau. Là.
Oh. Hop, à gauche, un sulbasse adulte posé. Hop, à gauche, un 4-scu en vol.
4-scu, grand lab.
4 sulbasse adulte posé. Hop, à gauche, 5 sulbasse adulte en vol. Hop, à gauche, un 4-scu en vol. Hop, à gauche, 5 alcuries posées. Hop, à gauche, un alcuri posé. Hop, à droite, il y a une smuggle en vol qui s'est passée sous l'avion.
Smuggle, mouette indéfinie. Mars 2025, appelé Jean-Robert Barito de la barre de Jean-Pierre de la LPO Vendée. Bénévole, ornithologue, connaît bien le littoral depuis tout petit.
C'est un coin très intéressant, et surtout en hiver, pour tout ce qui est migration, quoi, d'oiseaux et tout, ils passent beaucoup par là. Aujourd'hui, c'est calme. Les oiseaux qui viennent passer l'été ici, bah, on est encore un peu tôt, quoi. Ils ne sont encore pas arrivés. Quoi. Et ceux qui passent l'hiver ici, bah, ils sont partis.
Alors, vous utilisez quoi comme matériel?
Bah, une longue-vue. Pour un ornitho, c'est indispensable. Parce que si on n'a pas de longue-vue, on est perdu. J'ai entendu Courly. Et du courly cendré, c'est sûr, je les entends. Parce que moi, je travaille beaucoup avec l'oreille aussi. Hein. Non, mais je les vois pas, et pourtant, je viens de les entendre, donc ils sont bien là. Courly cendré, hein, parce que bientôt, on va voir du courly corlu.
Il n'y a pas longtemps, il y a un oiseau qui a été décrété comme éteint.
Oui, c'est le courly à bec grêle. Et il est éteint, on n'en voit plus du tout. Mais ça, c'est la disparition de l'habitat et puis pesticides et tout.
Ça arrive souvent qu'on décrète...
Non. Chez nous, non. Il y a des espèces qui sont vraiment menacées, qu'on appelle ça. Mais on n'en perd pas beaucoup quand même. Enfin, lui, il en fait partie. Le courly à bec grêle, il a été vu en 68, en baie de l'Aiguillon. Après, il y a certaines espèces qui descendent plus jusque-là ou qui montent plus... Enfin, surtout qui descendent plus jusque-là. Quand vous pensez, c'est des sacrés migrateurs, vous vous rendez compte les kilomètres qu'ils peuvent faire. Les oiseaux, ils sont pour ainsi dire tous migrateurs. Après, ils migrent sur plus ou moins longue distance, mais ils migrent tous, quoi. Mais s'ils peuvent migrer moins longtemps, ils le font aussi, hein. Parce qu'en fait, les oiseaux migrent, c'est surtout pour la nourriture. Quand il n'y a plus de nourriture, il faut partir, il n'y a pas le choix. Alors que maintenant, il n'y a plus de froid. Mais ils arrivent toujours à trouver de la nourriture, donc ils se déplacent moins. Alors ce qui fait que tout change, quoi. J'ai toujours été ornitho, mais depuis que je suis à la retraite, ça fait maintenant une dizaine d'années, et c'était une catastrophe, parce que ça diminue d'année en année, quoi. C'est fou. Il y a probablement des avocettes, là. Oui, effectivement. Ça, c'est des avocettes. Il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si vous voulez regarder. Notre but, c'est de compter tous les oiseaux d'eau, c'est-à-dire tout ce qui est limicole, quoi, justement, dont les avocettes font partie, et tout ce qui est anatidé, même oie, à l'occasion, quand il y en a. Tout ce qui est canard et oie, c'est des anatidés. On appelle ça des anatidés. Là, ça permet de savoir si les populations résistent ou diminuent, quoi. Mais ça a tendance, malheureusement, à diminuer.
Comment on continue, du coup, de faire ça, alors que... Pourquoi ?
On continue à compter. Il le faut, justement, que les gens soient au courant, quand même, de ce qui se passe, quoi. D'ailleurs, c'est ma vie. Il faut dire le mot, c'est ma vie, quoi. Je passe mon temps à faire ça. Si je vois pas d'oiseaux, je suis perdu. Voilà. Alors ça, c'est un râle. Alors ça, par contre, ça me surprend de voir un râle ici. Un râle d'eau, hein, je précise. Hein. Le râle déjeuner, il n'y en a pas ici. Il n'y en a plus de râle déjeuner, c'est pas compliqué. Mais un râle d'eau, c'est surprenant, j'avais encore jamais entendu un râle d'eau ici. Après, c'est un râle qui, à mon avis, doit être en migration et puis qui passe là. Il est là aujourd'hui et puis demain, il ne sera plus là. On va redescendre tranquillement. Pardon.
Vous venez d'écouter à l'œil nu un océan à entendre. Première étape, la rade d'amour en pointe d'Arcé. Avec Marine Le Breton, Régis Gallet, les scientifiques du laboratoire Pélagis et Jean-Robert Barito.
Par contre, je suis passé, tu sais, en allant à la pointe là-bas, il y a toujours des échasses, il y en a encore pas.
Ce projet est soutenu par l'Office français de la biodiversité.
Après, c'est le début, hein. Ben oui, mais on est toujours pressé. Si
Prochaine étape, le port du pavé à Charon.
Temps de création radiophonique.
À l'œil nu, un océan à entendre. Une série sonore en 6 étapes littorales par Claire Veissé.
Je travaille sur des micro-organismes, des petites bêtes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ces micro-organismes, en fait, c'est la base de tout. Sans eux, on n'a pas de vie, en fait.
Deuxième étape, le port du pavé à Charles.
Hey, ces bateaux-là, là, ils sont là pour quoi ? C'est quoi comme bateau, ça ? Les bateaux des mythiculteurs, pourquoi ils sont là ?
Parce qu'ils sont à part.
Comment on appelle ça, chez nous ?
Une rénovation.
Le car.
Alors 11 juillet 2024, je note sur mon carnet découverte du port du pavé, super terrain de jeu.
C'est quoi la ME ? Bonjour.
Marine éducative.
D'accord, c'est cool ça.
Rendez-vous à la mairie.
En plus, vous avez de la chance, c'est du soleil.
Grande activité de mytiliculture. Site qui vit presque H24. Apprécié des locaux et des visiteurs. Réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon.
Le but du jeu n'est pas que de se salir. Si aujourd'hui on va dans la vasière, c'est pour quoi ?
Ramasser des vers et des coquillages.
C'est ça, c'est trouver des vers et des coquillages. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire l'inventaire de la macrofaune, donc déjà les espèces qu'on peut voir avec nos yeux, qui sont dans la.
Vas-y.
On utilise les mains parce que c'est comme ça qu'on arrivera à sentir des choses. Qui veut bien aller me remplir les trois sauts? Moi. Trois personnes.
Novembre 2024. Rencontre avec Hélène Agoguet, chercheuse au laboratoire Liens.
J'ai découvert toute une diversité que je ne connaissais pas dans les marais et dans la Charente et sur les eaux côtières où c'est de l'eau très turbide. C'est vraiment cette richesse en termes de vasière. Tous ces oiseaux qui viennent, ces huîtres, ces moules. En fait, il fallait trouver l'explication pourquoi tout était là. Et c'est parce qu'on a une diversité au niveau biologique qui est assez énorme.
Là, et il est où ?
Il est là.
Mais t'as trop qu'il est gros ?
Les gars, il faut rester au même endroit, hein, pour pas battre le
haut. Non, regardez là, tout super.
Mars 2025, rencontre avec Audran Chenu de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon et Jérôme Jourde, chercheur au laboratoire Liens.
Enfin, après, dans la baie, très peu de chances que ce soit chorophie à marinarium.
Ouais. Oh, c'est un gros mal, ça.
Mais il est gros.
Ensuite, B, 1, 2, celui-ci. Alors, ça, c'est... T'as mis quoi là-dessus ?
J'ai rien mis là-dessus. Bah, les amphipodes...
Hirotoe Poseidonis.
Ah oui.
Ouais. Déjà, quand t'as ça sous les yeux, tu sais qu'il y a du sable.
Et il y a ce dernier truc. Je sais pas ce que c'est.
Ouais, c'est un verre plat, hein. C'est un platane ouate.
Ah ouais, ouais.
Bah, je pense. Hein.
Hirotoe Poseidonis.
Oh. T'as mis quoi, Nephthys quoi ?
J'ai mis Nephthys. J'hésitais entre Syrosa ou Umberger.
Il y a une morphologie.
J'ai vu de la Syrosa.
Syrosa. Ah, elle est belle, hein ?
Toi, tu dis c'est Syrosa ?
On me donne 2 secondes pour l'identifier, je dis Syrosa direct, ouais. Mais là, en regardant un peu plus frais. Ça me fout un peu le doute. Franchement. Ah non, si, c'est de la Syrosa. Ouais, ouais. Elle a des lamelles parapodiales qui sont énormes. Ça, j'avais jamais vu. Elle est vachement gracieuse, je trouve, cette Nephthys. Puis elle a la tête rose. C'est souvent le cas. Donc ça c'est Cirosa.
Ok.
Sans aucun doute.
En fait, on a divisé le vivant en boîtes. Y a des boîtes de taille déjà. Moi, j'étudie qu'un compartiment. La macrofaune benthique, donc la faune visible à l'œil nu qui vit sur les fonds marins. Il y a vraiment une très très grande diversité de, on va dire, de fonctions. Ça, c'est très anthropisant comme remarque, mais ils vont pas se nourrir de la même façon. Donc, il y en a qui vont filtrer l'eau, il y en a qui vont manger du sédiment, il y en a qui vont manger des cadavres, d'autres qui vont chasser leurs proies et les manger. Donc et puis d'autres qui peuvent faire plusieurs choses. Il y a ça, il y a les modes de reproduction aussi qui peuvent être extrêmement diversifiés. Donc, des fois, on se retrouve devant des organismes qu'on a du mal à identifier, on a du mal à trouver les sources pour les identifier. Et ça aussi, c'est un côté un peu attrayant du métier, cet aspect un peu enquête. Il faut trouver un moyen pour ne pas les confondre. Si on veut pouvoir les étudier, suivre leur population, voir comment elles se portent, faut qu'on puisse les nommer, parce que pour ne pas se tromper, pour ne pas regarder autre chose. Ce sont des témoins de ce qu'elles subissent, du milieu dans lequel elles vivent. Y a les coquillages qui peuvent se retrouver à la côte, après les tempêtes, avec le ressac. Mais sinon, la majeure partie des organismes qui vivent au fond, on ne les voit jamais, si on ne va pas les chercher.
Environ 3h30, là on s'en va pêcher des poules, tout bouchot, et on est au port du Bavé. Voilà.
À bientôt.
Bonne nuit.
On arrive un peu trop tard.
C'est une petite
heure. Ça se mange. Faudra faire le tri en rentrant.
Mais c'est vraiment tout petit.
On a fait des boucles, hein.
Vous voulez venir ?
C'est un peu pas mal.
Quand on met notre main, elle se coupe.
Tu veux travailler là-dedans ?
Bah oui, parce que mon père il travaille dedans, du coup je vais reprendre l'entreprise.
Ah oui. Ici ?
Oui, ici. Bah oui, moi c'est ce que je fais depuis tout petit. Du coup, bah j'aime ça.
Bah peut-être à une prochaine alors.
Bah oui, hein. Ça se trouve. Au revoir.
Ouais, salut.
que vous écoutez?
J'enregistre les vagues, les allées et venues des gens, les oiseaux.
Mais c'est fou ce lieu, c'est la Finistère, c'est une chose incroyable.
Vous connaissiez pas?
Non, c'est la première fois. C'est un lieu fou, parce que la terre finit et il y a seulement la mer. Avec une porte, c'est une chose très étrange.
Ouais. Ouais.
Vous venez d'écouter à l'œil nu un océan à entendre. Deuxième étape, le port du pavé à Charon, avec Hélène Agoguet, les élèves de l'école de Charon, leur professeur et Hélène Goussens, Jérôme Jourde, Audran Chenu, Vincent Gauthier et des visiteurs plus ou moins habitués du port du pavé.
C'est comme la Patagonie.
Au revoir.
Ce projet est soutenu par l'Office français de la biodiversité. Prochaine étape, le phare de Chassiron à l'île d'Oléron.
C'était le temps de création radiophonique. Rendez-vous tous les jeudis à midi ou à écouter en rediffusion les lundis soirs à 23h.